France Inter, le 18-20.
La première ministre britannique Theresa May juge nécessaire un nouveau report de la date du Brexit jusqu'à ce qu'un accord soit entériné. Fermez les guillemets, c'est tout chaud. Cette déclaration, elle a juste quelques minutes. Theresa May dit qu'elle va s'efforcer d'entériner quelque chose d'ici au 22 mai, alors que la date butoir, le Brexit dur, le no deal, était censée être pour le 12 avril prochain. Sauf miracle, j'ai presque envie de dire, alors que la date d'avant était celle du 29 mars. On va y venir, mais si on se résumait, franchement. Hier soir, les députés britanniques ont rejeté les quatre solutions alternatives à l'accord de Brexit, lui-même rejeté à trois reprises. La semaine dernière, les mêmes députés britanniques ont voté 8 fois non à 8 propositions parlementaires pour tenter de sortir de l'impasse. Comment imaginer autre chose qu'un no deal par défaut ? Theresa May, on le voit, et jusqu'au dernier moment, tente le tout pour le tout avec l'opposition, cette fois qu'elle invite pour tenter de trouver un accord acceptable. Bref, l'Angleterre marche le long d'une falaise abrupte en faisant des silly walks chers au Monty Python. Au fond de l'abîme, elle s'écrasera au sol ou retombera tranquillement sur ses pattes. Et là, pour le coup, entre les Brexiteurs et les Remainers, on ne saurait mettre les deux d'accord. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans que ça dure. Alors, est-ce que vous comprenez sincèrement vraiment où on en est ? D'où sort toute cette histoire ? Comment on en est arrivé là ? Pourquoi les Anglais installés chez nous paniquent-ils pour certains ? En tout cas, comment nous, Européens, allons-nous sortir de cette affaire ? Est-ce que nous sommes en danger ? Revoter, est-ce que c'est un fantasme ? Qu'est-ce que ça changerait au fond si Theresa May partait ? Est-ce que c'est elle le problème ou pas ? Ça en fait beaucoup des questions et pourtant on n'a que jusqu'à 20h. Allez, bienvenue.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Et bonsoir Catherine, c'est vous la première, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais poser la question de savoir où sont passées les personnes qui ont initié le Brexit, les politiciens et les politiciennes, j'imagine, et pourquoi ne sont-ce pas ces personnes qui mènent le Brexit à son terme, qui s'occupent de tout ça, de tout ce bazar.
Allez Catherine, merci beaucoup. Merci pour cette entrée en matière, pour répondre à vos questions, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Pauline Schnapper est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez votre ronde serviette dans le 18-20 autour des questions liées au Brexit. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonsoir David Lowe.
Vous êtes... qui n'est pas professeur de...
Non, mais non. Vous êtes chroniqueur scientifique, vous êtes comédien et vous êtes britannique. Et c'est ça qui est bien.
Oui, c'est ça.
Vous vivez en France depuis 30 ans. On attend David Young qui sera là dans un instant et dans les tuyaux. Il ne devrait pas être bien loin. Il est ex-UKIP, justement, candidat aux élections parlementaires. C'était en 2015, mais son avis nous intéresse. Il est notamment fondateur d'un cabinet conseil en session d'entreprise et il nous rejoindra depuis le Royaume-Uni. Pour répondre d'abord, Pauline Schnapper, à la question de Catherine, où sont passés les politiciens qui ont initier le Brexit, il y en a qu'on voit encore beaucoup, il y en a qu'on voit beaucoup moins.
Ils sont quand même là, hein, dans l'ensemble. Vous avez, si vous repensez au référendum de 2016, les têtes de liste, enfin ceux qu'on voyait beaucoup, c'était des gens comme Boris Johnson, évidemment.
Qui est encore là.
Qui est encore là, qui a quitté le gouvernement, qui a démissionné l'été dernier, mais qui est quand même bien présent au Parlement, dans la presse. Il a une chronique au Telegraph qui a toujours... il se fait bien mm-hmm. entendre. Vous avez encore des ministres au sein du cabinet qui étaient en première ligne, des gens comme Liam Fox, qu'on connaît pas beaucoup en France, mais qui outre-Manche joue d'un rôle non négligeable. Vous en avez beaucoup au Parlement, pas dans le gouvernement, mm-hmm. mais au Parlement. Et puis vous avez, j'allais dire, les agitateurs type Nigel Farage, qui a beau avoir démissionné, a-t-il dit, enfin avoir quitté la tête du parti UKIP, est encore bien présent lui aussi, dans les médias, dans les rues.
Lui, pour le coup, on a quasiment eu le sentiment qu'une fois que le Brexit était là, il en a été étonné lui-même et il est parti quasiment tout de suite. Il y a eu un gros moment de flottement chez lui quand même, non ?
Oui, il a dit que mission accomplie. Ouais, donc il s'est retiré pour avoir un peu de paix avec sa femme allemande.
Et du coup, qu'est-ce qu'on posera la question tout à l'heure à notre ami conservateur. Mais David Lowe, vous le Britannique, comment vous voyez ça ? Est-ce que vous avez des fois le sentiment de dire, attendez, ces gens nous ont envoyés là où nous sommes aujourd'hui, alors à tort ou à raison, ça c'est encore un autre problème, mais lui par exemple, Nigel Farage, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'Irak quittait le navire ?
Oui, il est un peu provocateur, Nigel Farage. C'est bizarre parce que c'est un nom plutôt français, Farage. Je dirais, parce que la personne qui a téléphoné là a dit que c'était le bazar, la pagaille, mais je trouve que ce bazar, cette pagaille, c'est le reflet de ce qui se passe en Europe. On fait semblant en ce moment que l'Europe, tout va bien, mais pas du tout. Donc la tension est un peu distraite en ce moment.
Est-ce que vous croyez que c'est simplement ça, j'allais dire, qu'on est juste le reflet de ça, sauf qu'il faut bien en faire quelque chose désormais de ce Brexit ?
Oui, c'est un débat. Donc c'est un peu prolongé. Je trouve que
comme vous dites.
Non, les remarques de votre président aujourd'hui, ça aide pas. Là, il était avec le Premier ministre d'Irlande, qui n'aime pas trop les Anglais pour des raisons historiques. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne faut pas que la Grande-Bretagne prenne l'Europe en
L'Union
otage.
L'Union européenne ne doit pas être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni, c'est ce qu'a dit Macron.
Oui, ça n'aide pas beaucoup.
Il a dit nous ne pouvons pas passer les prochains mois à régler encore les modalités du divorce.
Oui, et Barnier, il a dit que l'Europe est préparée pour le no deal Brexit. Ça fait rire. Est-ce que l'Europe est vraiment préparée pour le no deal Brexit? Vous lui faites confiance?
Est-ce que Pauline Schnapper, on a l'impression effectivement qu'il a tapé du poing sur la table Emmanuel Macron,
oui,
mais comme Juncker avant
rôle,
lui, comme les Européens de toute
il
façon.
Il est dans son rôle. La principale préoccupation des Européens, c'est pas la politique intérieure au Royaume-Uni, hein, c'est de sauvegarder l'Europe d'une part et surtout le marché unique. Donc ils sont dans le rôle en disant, bah écoutez, décidez-vous. Nous on a signé un accord. On ne sait pas pourquoi vous voulez pas l'accepter. D'ailleurs, on ne veut pas le savoir. Soit vous l'acceptez, soit vous sortez sans accord la semaine prochaine, puisque c'est quand même par défaut ce qui se passerait. Soit vous nous donnez une bonne raison de prolonger. Et c'est ce que Theresa May manifestement ce soir veut.
Mais c'est
veut
très dur
de faire.
Tout ça.
J'aimerais bien qu'un
peu d'émotion entre dans le jeu, parce qu'on vous aime quand même. Vous nous aimez, j'espère. Et j'aimerais bien qu'on mette tout sur la table et on essaie de régler ce problème.
Mais est-ce qu'on n'a pas déjà mis tout sur la table longtemps?
C'est pas un problème avec les Européens, c'est un problème interne au Royaume-Uni.
C'est plutôt Macron voulait la bourse ici, n'est-ce pas? Donc c'était plutôt un jeu pour se mettre en avant, pour tirer les couvertures à soi-même. Et je trouve cette Europe que j'aime tellement, on est en train de le détruire. On peut pas perdre la Grande-Bretagne.
Mais la Grande-Bretagne a décidé de partir, non
David Lowe. Je crois qu'ils ne seraient pas partis si on pouvait changer l'Europe un tout petit peu.
Et alors,
si on avait fait un référendum en France, il y aurait un Frexit.
Ouais, alors ça c'est pas sûr du tout.
On a déjà fait un référendum ici, ils n'étaient pas pour le traité de Lisbonne, n'est-ce pas?
Ouais, non, alors c'était le référendum de 2005, mais honnêtement si on votait...
Il y aurait un deuxième référendum pour qu'on change d'avis, bien sûr.
Si on votait pour le Frexit, je suis pas du tout sûr qu'il y aurait une majorité pour le Frexit aujourd'hui. Pauline Schnapper, entre maintenant et le 22 mai, qu'est-ce qu'elle peut faire de différent? En quoi est-ce qu'elle peut être suffisamment convaincante pour que les Européens disent « bon, ben d'accord, on recule au moins la date ».
Ça, c'est une bonne question à laquelle je suis pas sûre d'avoir tout à fait une réponse. Il y a plusieurs possibilités, hein, en gros, pour reculer la date. Ça peut être soit pour organiser de nouvelles élections législatives, même si on voit pas très bien en quoi ça serait dans l'intérêt du Parti conservateur, soit pour organiser un deuxième référendum, ce qui paraît pas non plus le plus vraisemblable, soit, et c'est quand même, je pense, ce vers quoi on se dirige, renégocier une forme de Brexit plus soft, pour reprendre les termes habituels, c'est-à-dire soit en restant dans l'union douanière, voire même dans le marché unique.
Mais
c'est là où un compromis, me semble-t-il, serait possible.
Elle dit qu'elle veut inviter les travaillistes à trouver une solution acceptable pour les
Européens. Ça va dans cette direction-là.
Mais les travailleurs refusent de parler avec Theresa May jusqu'à il y a quelques jours.
Alors j'allais vous poser la question, est-ce que les travaillistes ont envie de l'aider, Theresa May, là sur cette question? Et on a envie de dire, c'est maintenant seulement qu'on essaye de discuter avec les travaillistes, on a aussi envie de dire ça.
C'est une des nombreuses erreurs de Theresa May. Cela dit, Jeremy Corbyn n'a jamais fait beaucoup d'efforts de son côté pour trouver un compromis avec elle. Les travaillistes vont être pris dans une alternative, c'est-à-dire d'un côté, ils n'ont évidemment pas envie de soutenir à bout de bras un gouvernement conservateur qui est dans un état de déliquescence et total. Mmh. En même temps, là, pour le coup, on est vraiment dans une question d'intérêt national majeur. Est-ce qu'on sacrifie le pays à un petit avantage électoral à court terme, quoi? Donc ça va être ça pour eux la question à se poser.
David Young, vous qui êtes conservateur et qu'on a retrouvé dans les tuyaux, merci beaucoup d'être avec nous dans le téléphone. Ce soir. Vous, qu'est-ce que vous en dites de cette énième et xième et peut-être dernière, là pour le coup, mais j'ose même plus le dire, cette nouvelle tentative, en tout cas de Theresa May, de poursuivre, essayer de prolonger pour éviter qu'on sorte sans deal?
Je pense que malheureusement, elle va réussir à faire passer son accord de retrait, qui pour moi, c'est pire que de rester, en fait, même comme Brexiteur. Je suis pas du tout content avec cet accord, comme tout le Parlement d'ailleurs. Mais avec les menaces d'une sortie dure que le Parlement ne veut absolument pas, on va, je pense, pousser les députés à voter pour cet accord de retrait.
Et vous pensez qu'on va donc...
Ça c'est le plus vraisemblable.
Vous pensez qu'on va revoter pour la quatrième fois sur le même accord qui a déjà été rejeté 3 fois, même s'il est plus ou moins modifié?
Oui, oui, je pense que ça, c'est le plan. Ça a été le plan dès le début, à mes yeux.
Vous, David Young...
Je pense que Madame May... Oui.
Allez-y, allez-y, je vous en prie. Pardon, il y a un léger décalage, c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre, mais je vous en prie, finissez.
Je pense qu'il y a une cabale chez les conservateurs, qui sont divisés comme les travaillistes, qui veulent le maintien, et qui, à la tête, c'est Madame May, qui était pour le maintien. Et tout ce qu'on a vu depuis deux ans, c'est une pantomime qui va mener, qui était destinée à mener à un choix très difficile entre un accord de retrait qui serait Brexit in name only, alors un faux Brexit, mm-hmm. uniquement dans le nom, où on perd encore de la souveraineté qu'on aurait eue si on restait. Un choix entre ça, d'une part, et d'autre part, l'enlèvement du Brexit par les délais et un référendum, encore une fois.
C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris.
Parce que, dès le début, elle a enlevé la possibilité de sortir sans accord, parce qu'elle a toujours bloqué les préparations sérieuses, dès le début, pour cette possibilité. Donc on arrive à un moment où le Brexit dur paraît trop risqué. Et cet après-midi, dans la Chambre des députés, il y a une action menée par une travailliste pour faire passer une loi bientôt, dans une journée, qui va bloquer le Brexit dur.
Pauline Schnapper, quelles sont les erreurs qui ont été finalement celles de Theresa May ? Parce que moi, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'elle a mal interprété ce qui s'est passé pendant ce vote. En fait, qu'elle s'est trompée sur ce que voulaient réellement les Britanniques, y compris les Brexiteurs d'ailleurs.
C'était pas clair, parce que par définition, quand vous avez un référendum, une question oui ou non, vous avez une réponse qui portait en 2016 uniquement sur « oui, on veut sortir », avec une majorité quand même très étriquée, 52-48, hein, on n'était pas à 70-30. Et surtout, une question « oui-non » ne vous dit pas ce que veulent les gens après. Sortir, ça voulait dire quoi ? On ne sait pas, on n'a jamais su. Et ça, Theresa May a du coup interprété ce résultat du vote en fonction de ses propres préjugés, et en particulier avec l'idée que les gens avaient voté essentiellement, principale raison, pour arrêter l'immigration en provenance de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc, elle en a conclu que pour faire plaisir...
Ce qui était en partie juste, par ailleurs.
Ce qui était partiellement juste, hein, je ne dis pas que c'était faux du tout, mais c'est, disons, une interprétation partielle, peut-être. Et du coup, elle en a tiré la conclusion que, contrairement à ce que vient de dire ce monsieur, à Londres, il fallait absolument sortir du marché unique et de l'union douanière, parce que c'était la seule façon de reprendre le contrôle des frontières et d'arrêter la libre circulation. Et tout est sorti de là, finalement. Octobre 2016, ce choix qu'elle a fait, et auquel elle s'est accrochée contre vents et marées, y compris jusqu'à devoir céder en partie avec l'accord, la Corse avec l'Union européenne en novembre. Donc d'un côté, elle a maintenu ce discours très hard Brexit, mm-hmm. qui faisait plaisir aux gens, aux partisans du Brexit, et en même temps, la réalité, et la réalité économique en particulier, voulait qu'on ne puisse pas sortir complètement du marché unique et de l'union douanière, sinon ça coûterait terriblement cher à l'économie britannique.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Patrick, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel et merci pour vos émissions que j'écoute du matin au soir, c'est formidable. Bref, moi je voudrais avoir une synthèse rapide si possible sur qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, parce que ou j'écoute pas les bonnes informations, ou les médias passent beaucoup de temps à nous expliquer les processus du retrait, mais peu le font, et puis aussi pourquoi les Anglais refusent, et qu'est-ce qu'ils veulent.
Merci, comme ça au moins c'est... Alors on va essayer d'être concis Patrick, mais il y a beaucoup de questions dans votre question, et vous avez raison, Pauline Schnapper, avant que vous nous expliquiez ce qu'il y a à l'intérieur, je voudrais juste qu'on réentende David Young là-dessus, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, vous le conservateur, David Young, qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère aujourd'hui contre cet accord dont vous avez le sentiment, si on a bien compris, qui sera de toute façon entériné, et vous n'en voulez pas, qu'est-ce qui vous fait le plus de peine dans cet accord-là ?
La chose qui me fait le plus peine, c'est la partie qui s'appelle the backstop. C'est les arrangements
L'Irlande.
Pour éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et ça, cet accord, comme il est, donne à l'Union européenne un pouvoir absolu sur la sortie de cet arrangement. si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un arrangement commercial, on sera dans une union douanière tout le Royaume-Uni avec l'Union européenne pour toujours. On perd la possibilité qu'on a théoriquement actuellement de sortir de l'Union européenne.
Mais moi j'ai cru
que ça va dépendre.
Pardon de vous interrompre.
D'une décision de l'Union européenne.
David Young, pardon de vous interrompre, mais moi j'ai cru comprendre que cet accord était un accord provisoire qui durait 2 ans avant que quelque chose d'autre et de plus acté soit mis en place. Donc en quoi est-ce que vous craignez, parce que c'est toujours un souci, en quoi vous craignez que cet accord avec l'Irlande soit pérenne?
Parce que si on n'arrive pas dans cette période d'accord provisoire de trouver une solution pour la frontière irlandaise, on va être automatiquement dans une union douanière de laquelle on ne pourra pas sortir sans l'accord de l'Union européenne. Donc il y a une perte de souveraineté en relation avec la situation actuelle. Moi, en tant que Brexiteur, je serais plus content de voir le retrait de l'article 50 et de revenir à zéro que de voir cet accord de retrait passer.
Revenir à zéro, c'est revoter aussi ou pas, David Young?
Si nécessaire. Mais je pense de toute façon que l'accord va passer. Parce que dans les 3 tentatives qu'on a eues, la majorité contre s'est diminuée nettement.
Oui, c'est vrai.
Et la stratégie de Mme May, c'est de confronter le Parlement avec la réalité dure d'un Brexit dur pour laquelle, intentionnellement, elle n'a pas fait les préparations nécessaires.
Alors c'est vrai que c'est une espèce de vote à l'usure, une fois, deux fois, trois fois et peut-être une quatrième fois. David Lowe, juste une chose, vous qui n'étiez pas favorable au Brexit, qui êtes plutôt de cette partie-là et qui vivez en France, vous, dans cet accord-là, qu'est-ce que vous jugez plutôt bon, plutôt inacceptable?
Oui, je trouve que l'Europe n'a pas été assez sensible à cette histoire d'Irlande. En effet, mais on pleure. C'était impossible à résoudre au début, mais maintenant c'est possible. On ne veut pas de frontières dures. Mm-hmm. Et on va contrôler des choses avant qu'ils arrivent à la frontière. Parce qu'on a une histoire avec l'Irlande qui est assez douloureuse. Et je trouve que, comme j'ai dit, l'Europe n'a pas assez sensible à ça. D'ailleurs, je trouve assez maladroit que Macron reçoit... C'est le premier ministre ou le président
irlandais, absolument, ouais, qui l'a reçu aujourd'hui.
Oui, c'est pas très délicat.
Pauline Schnapper, tout le monde revient toujours à ce backstop et à l'Irlande. On a l'impression que c'est la dernière chose qui manque. S'il n'y avait pas ça, il aurait été signé cet accord ou pas?
Oui, très vraisemblablement, parce que par ailleurs, cet accord, c'est un accord de transition uniquement, hein, qui porte sur les 2 années qui viennent et qui réglait la facture. Hein, pour revenir à la question qui a été posée par l'auditeur, la facture de sortie pour le Royaume-Uni et les droits des citoyens britanniques résidant en Europe et inversement. Donc ça, c'était à la limite, c'était assez facile à régler. Le dernier point sur lequel les Européens avaient absolument insisté pour résoudre avant cette sortie, à cause du fait que l'Irlande est un pays membre de l'Union européenne, le restera et a donc tous les droits à la solidarité des autres pays européens, ce qui n'est plus le cas du Royaume-Uni, d'où le poids qu'est en train d'avoir l'Irlande au sein de l'Union européenne. Donc cette question du backstop, la question de la frontière plus exactement, on sait depuis le début que ça va être un problème, puisque c'est sous l'égide de l'Union européenne que les accords de paix en Irlande du Nord ont été signés en 98. Le fait que le Nord et le Sud faisaient partie de l'Union européenne, ça explique en bonne partie la réussite de cet accord. Donc revenir sur une frontière à cet endroit-là, c'est une question de paix ou de guerre. Enfin là, on n'est plus simplement dans les échanges commerciaux.
On ne peut pas parler de Nord et de Sud d'ailleurs, parce que si on dit le Sud d'Irlande à un Irlande du Sud...
On dit l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est vrai. En termes propres, effectivement. Bonsoir Norbert.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Norbert, on vous écoute.
Bien écoutez, d'abord je voudrais dire mon infinie tristesse à voir mes amis anglais sortir de l'Europe. Ma question est la suivante. Y a-t-il un scénario possible qui aboutirait à un nouveau référendum de nos amis anglais?
Merci beaucoup Norbert, c'est la question récurrente que tout le monde pose, mais parce qu'on a tous envie en fait, mais et au fond de chaque côté, de dire pouce, attendez, on recommence. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, non, Pauline Schnapper. Il y a quand même un scénario éventuel de revote ou pas?
Il y a, on peut pas l'exclure complètement et on s'accroche tous un peu à cette idée, nous tous qui sommes anglophiles en Europe. C'est très difficile sur le plan politique, ça très clairement.
D'abord 17 millions hein, de personnes voilà, quand même qui ont voté pour la sortie.
Il y a eu un peu plus
de,
d'un million d'écart de voix d'écart. Les sondages ne montrent pas un changement majeur. Ils montrent une petite évolution en direction d'un changement d'avis, mais pas énorme. Donc, en lui-même, ne justifierait pas un second référendum. Et sur le plan politique, c'est très difficile de dire à 17 millions de personnes qui ont voté il y a 3 ans, même si, encore une fois, il y en a quelques-uns qui ont changé d'avis depuis, de recommencer à voter. Ce qui serait peut-être le moins difficile à faire accepter sur le plan politique, ça serait de dire, de faire voter, par exemple, sur l'accord. Mmh. C'est-à-dire de dire, voilà, on est un gouvernement, on a signé cet accord, il n'y a pas de majorité au Parlement pour le voter. Est-ce que vous en voulez ou pas? Ça serait une façon de, au moins, pas poser la même question que la première fois.
Est-ce que, constitutionnellement parlant, on peut faire ça? On peut décider
La Constitution ne dit rien, puisque le référendum ne fait pas partie de la Constitution britannique. Hein, c'est quelque chose qui a été ajouté. La Constitution britannique est fondée sur la souveraineté du Parlement, pas du tout sur la démocratie directe. Même ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas fait usage. Mais enfin, c'est pas dans la Constitution.
David Lowe, qu'est-ce que vous diriez-vous? D'abord, si on pouvait revoter, est-ce que vous penseriez que c'est une bonne idée? Et deux, ce que dit Pauline Schnapper à l'instant, c'est-à-dire voter sur l'accord, pourquoi pas?
Oui, on pourrait voter sur l'accord. Je trouve souvent, quand on parle de ce Brexit, on parle souvent d'un divorce. Et je trouve que c'est pas un divorce. Après un divorce, on peut se remarier, mais c'est plutôt une dispute de famille. Et c'est traité comme une dispute de famille. En attendant, le père de famille qui rassemble tout le monde pour parler. Et on veut pas perdre un fils, n'est-ce pas? Et un fils est en train de partir.
Et ça dit, paraît que, en termes de divorce, il paraît que ça se passe très très mal. L'Angleterre est incroyablement divisée. Il y a des conversations qu'on n'a plus aujourd'hui,
oui,
notamment dans les pubs.
Oui, mais là il y avait une marche, par exemple, le vendredi dernier, quand il était censé avoir le Brexit, le vrai Brexit. Mm-hmm. Et il y avait un peu d'extrême droite, il y avait un peu de violence, mais rien à voir avec les Gilets jaunes, par exemple. Donc on est quand même contrôlé. On avait notre mouvement Gilets jaunes en 2004, je pense, où on a arrêté tout ça. Oui, on a envie de dire à Macron qu'il s'occupe de ses propres affaires, sans se mêler à nos affaires, à nous.
Et alors, pour l'instant, c'est plutôt les Anglais qui ont du mal à se mêler de leurs propres affaires. David Young...
Non, j'ai dit encore, c'est un débat. Oui. On est en train de débattre.
David Young...
Sans violence.
Qu'est-ce que vous en dites, vous? Un nouveau référendum, est-ce que ça vous agace quand on remet ça sur le tapis? Ou voter sur l'accord, est-ce que vous dites pourquoi pas?
Ça m'agace en tant que Brexiteur.
Je comprends après tout. Hein.
Et j'ai des amis aussi qui ont voté pour le maintien, qui seraient agacés aussi par un deuxième référendum parce qu'ils sont démocratiques, ils acceptent que le Parlement a décidé de déléguer la question au peuple. Le peuple a décidé, et c'était au Parlement, de faire l'implémentation. Donc c'est agaçant, mais je pense que c'est presque inévitable. Je pense qu'il faudra donner une raison pour un retrait, pour reculer la date, et ça sera la raison qui sera donnée, parce que les conservateurs vont pas vouloir avoir une élection à ce point-là. Mmh. Ils seront absolument massacrés.
Une série de questions pratiques au 01 45 24 7000, celle de Guy, par exemple, qui est dans Lyon. Bonsoir, Guy.
Oui, bonsoir. Une question très pratique et très courte. Que devient le Calaisien avec les accords du Brexit? On était régis par le traité du Touquet.
Les accords du Touquet, oui.
Sarkozy. Mmh. Mais qu'est-ce que ça devient? Parce que est-ce qu'on va être obligé de faire la police aux frontières? J'ai entendu tout à l'heure la frontière nord-sud avec l'Irlande. Là, c'est la frontière est-ouest. Il y a beaucoup de passages. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être devant un mur administratif, un mur qui va retenir encore des migrants? Ce qui était, pour ma part, inadmissible. C'est des enfants, souvent, mais ils sont libres de passer. Qu'est-ce qu'on fait?
Merci.
Voilà ma question.
Merci,
Guy. Et félicitations, je vous disais, simplement pour votre émission. parce que comme Monsieur Jourdain, vous faisiez de la prose, vous faites du grand débat sans le savoir.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Guy. On était content de vous avoir. Pauline Schnapper, qu'est-ce qui se passe avec les accords du Touquet ?
Les accords du Touquet ne sont pas des accords européens. Ce sont des accords bilatéraux entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Donc, il n'y aura a priori aucun changement là-dessus.
Il n'y a pas eu de chantage non plus.
Non, il y a eu une tentation manifestement à un certain moment, au moment du référendum, de dire écoutez, si vous partez, les contrôles frontières, ils se feront à Douvres et plus à Calais. Et puis, finalement, le gouvernement français a reculé là-dessus et s'est dit qu'il n'allait pas jouer là-dessus. Donc, a priori, pour en revenir aux migrants, rien ne change. Ce qui pourrait changer, bien sûr, s'il n'y a pas d'accord, c'est des contrôles aux frontières pour tout le monde, beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué à Calais et à Douvres.
J'avais 2 heures d'attente l'autre jour à cause des douaniers français qui
veulent me faire une
grève. Ça, c'est autre chose. C'est une grève du zèle. Il y a une grève du zèle des douaniers, ce qui est autre chose. Bonsoir, Victor.
Bonsoir.
Allez-y, Victor, on vous écoute.
Alors moi, ce serait plus pour des questions pratiques, administratives, puisque je vis avec ma copine qui est anglaise, qui est venue vivre en France depuis le mois de juillet dernier. On a des questions par rapport au remboursement médical. Est-ce qu'elle va devoir payer un visa? Qu'est-ce qui va arriver si on a un enfant tous les deux? Comment il va pouvoir grandir sereinement entre deux pays qui sont maintenant divisés, ou plus du moins plus tout à fait en accord? Et surtout, est-ce qu'elle va pouvoir travailler sereinement en France dans les années à venir?
Merci Victor. Est-ce qu'on peut rassurer Victor ou finalement pas encore
Pas vraiment. Parce que si l'accord, le fameux accord dont on parle de novembre était finalement signé, la question serait réglée au moins pour les 2 années qui viennent, les deux ans de transition, les droits des citoyens britanniques en France et des citoyens européens au Royaume-Uni seraient absolument conservés. Après, ça dépendrait du type d'accord qu'on signe avec les Britanniques. En revanche, si le Royaume-Uni sort sans accord dans une semaine, ce qui après tout n'est pas totalement exclu, peu vraisemblable quand même, là on est dans l'incertitude totale et je comprends très bien les inquiétudes des uns et des autres. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de réponse. Tout ce qu'on peut espérer, c'est, j'allais dire, un peu de bon sens des deux côtés, c'est-à-dire que les gouvernements des deux côtés de la Manche s'engagent à conserver aux résidents britanniques, par exemple en France, les droits dont ils jouissaient jusqu'à maintenant. Mais il n'y a aucune garantie et ça ressort du droit national et pas européen.
Encore une question pratique, c'est celle d'Alain, dont la fille travaille à Londres.
Mais pour la réponse à ça, il faut qu'elle prenne une carte de séjour.
C'est quand même le conseil qu'on peut lui donner, effectivement.
Vous avez la nationalité britannique uniquement ou vous n'êtes pas français, donc?
Oui, je ne suis pas français, je n'ai pas de carte de séjour. Donc, après avoir payé mes impôts pendant 30 ans en France, je pourrais être rejeté.
C'est peu probable.
Il y a peu de chance. Mais est-ce que, comme d'autres, parce qu'on en a vu d'autres, vous comptez prendre la double nationalité, c'est-à-dire aussi la nationalité française? Vous êtes là depuis 30 ans, donc ça devrait être assez simple. Est-ce que vous l'avez imaginé ou pas?
Oui, j'ai toujours dit presque en blaguant que je garde ma nationalité britannique pour être défendu par l'armée britannique plutôt que l'armée française. Mais ça devient moins blague maintenant.
Oui, moi, c'est plus drôle. Et maintenant que c'est plus une blague, vous y songez sérieusement, David Lowe, au passeport français?
Il y a quand même une fierté nationaliste d'être britannique. Et ça me heurte un tout petit peu d'avoir un passeport français. Mais je suis européen, profondément, et plutôt culturellement que politiquement.
Une autre question pratique, c'est celle d'Alain. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Je vais poser une question qui est un peu inverse de celle de l'auditeur précédent, Victor, puisque ma fille travaille à Londres depuis plus de 2 ans. Et donc je me demandais ce qui allait advenir d'elle dans l'éventualité d'un Brexit dur ou dans l'éventualité du vote de l'accord de novembre.
Et là aussi, c'est difficile d'avoir une réponse. Claire pour Alain.
Même réponse, parce qu'a priori, il y aurait une réciprocité. Donc, ce qui sera valable pour les ressortissants britanniques vivant en France, le sera aussi pour les Français vivant au Royaume-Uni. Mais encore une fois, ça dépend du type de sortie et si l'accord est ratifié ou pas. Donc, c'est très difficile de vous répondre.
Tiens, dans la série des cas d'école, nous avons ici une Française qui vit en Angleterre depuis plus de 25 ans avec un mari qui est néo-zélandais et ils ont 3 enfants. qui elle n'a pas voté au référendum puisqu'elle n'est pas britannique. Son mari et ses enfants l'ont fait. Elle est affolée, dit-elle, par le début du Brexit. Et ça, ça vous plaira, David Lowe. Elle dit que les Européens sont en train, et notamment Emmanuel Macron, sont en train de mettre les Anglais au pied du mur et poussent vers un no deal qui serait absolument catastrophique. Donc c'est effectivement l'avis d'un certain nombre de gens comme vous. Est-ce qu'on sait ce qui se passe quand on est française, installée chez les Britanniques, mais sans passeport, mariée avec un Néo-Zélandais et des enfants nés sur le territoire britannique?
Non, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'expulsion de Français.
Ah bah d'expulsion, ça c'est sûr. Mais avoir à faire des démarches administratives supplémentaires.
Ce qu'il faudra certainement qu'ils fassent, c'est, d'ailleurs ça a déjà commencé, c'est un espèce de système d'enregistrement. Comme il en existe en fait dans d'autres pays européens, il me semble, je suis pas spécialiste de la question, mais il me semble qu'en Allemagne, il faut s'inscrire, quand on vit en Allemagne, même en étant européen, il faut s'inscrire à la mairie, ou enfin il y a une procédure de ce type. Et donc c'est de ça dont il est question pour l'instant pour les ressortissants français et européens au Royaume-Uni, mais pas plus. Si elle vit là, si ses enfants sont nés, elle pourra y rester avec tous ses droits sociaux en particulier.
Vous voyez, David Lowe, on avait cette dame qui dit « Mais comment les Européens ont tout fait pour que les Britanniques sortent ?» Et on a celle-ci sur franceinter.fr qui dit « Il aurait fallu faire des grandes manifestations pour faire pression contre le Brexit. Les 27 auraient dû aider aussi les Anglais. » Comme quoi, vous voyez.
Oui, merci.
Voilà. Il y a un certain nombre de gens qui imaginent, Pauline Schnapper, que...
Le problème n'est pas là.
C'est ça. Comme si nous avions, nous, Européens, main sur un pays qui vote souverainement.
Oui. Ça, c'est le bon côté du populisme, je trouve.
Je ne sais pas si c'est le bon côté du populisme, mais encore une fois, en quoi nous, Européens, pouvions-nous, à un moment, influencer?
C'est un problème anglo-anglais, j'allais dire, même pas britannique, puisque c'est pas un problème écossais, c'est pas un problème irlandais, c'est un problème des Anglais avec eux-mêmes, et l'Europe n'a que très peu à voir avec ce qui se passe en ce moment outre-Manche.
David Young, j'aimerais votre avis là-dessus, quand vous entendez ces auditeurs qui nous disent « mais il fallait que l'Europe pousse de tout son poids pour que ça n'arrive pas », est-ce que vous avez l'impression que c'est un problème européen ou un problème purement britannico-britannique ?
C'est les deux. Je pense que si on va en arrière, au début, on a accepté en Angleterre, au Royaume-Uni d'ailleurs, qu'on allait faire partie d'un marché commun. On était pratiquement tous d'accord là-dessus. Mais petit à petit, on a compris que c'était beaucoup plus que ça. Même si c'était clair pour les fondateurs et pour beaucoup d'autres en Europe, je ne sais pas, mais le projet a été vendu aux Anglais. Et aux Britanniques comme marché commun. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de doutes et méfiances concernant l'Europe à cause de la manque de vraie démocratie et responsabilité. Et ça a été caché parce que, pendant 40 ans, les deux partis principaux sont très divisés sur la question de l'Europe et ils ne voulaient pas ouvrir le débat. Et finalement, le débat s'est explosé, probablement poussé par l'immigration, mais c'est pas l'unique souci. Il y a un grand souci de souveraineté, parce qu'on a écouté depuis 40 ans que la solution de chaque problème en Europe, c'est plus d'Europe. Entre-temps, on a vu que l'Europe n'a pas résolu les problèmes, par exemple, avec la désintégration de la Yougoslavie, n'a pas résolu les problèmes en Grèce, est peu capable de résoudre les problèmes. On est heureux qu'on n'ait pas entré dans l'euro, et quand la question finalement a été posée, il y a beaucoup qui ont décidé que malheureusement, il ne sera pas possible probablement de faire des réformes en Europe avec l'Union européenne qu'on aurait voulu. Si par contre, l'Union européenne serait prête à se réformer dans la direction de plus de responsabilité, plus de démocratie et plus de réactivité et peut-être plus de contrôle des frontières vu les problèmes d'immigration dans tous les pays actuellement. C'est pas uniquement l'Angleterre qui a les problèmes avec les flux d'immigrants. C'est pratiquement tous les pays de l'Europe. Il y a un euroscepticisme croissant partout en Europe. Donc ce n'est pas du tout, juste un problème anglais. Il y a des initiatives que l'Europe aurait pu prendre. Et je vous rappelle que le Premier ministre Cameron a fait des tentatives de négocier avec l'Union européenne et l'Union européenne lui a donné absolument rien. Donc, la question a été poussée au référendum et on vit avec les conséquences.
Merci.
Mais
pardon, j'aimerais bien.
Je pense que le souci de la manque de souveraineté face à une Union européenne assez impérialiste qui provoque la Russie, par exemple, en Ukraine, et qui n'est pas du tout la garantie de la paix en Europe que nous voulons tous.
David, merci. Pardon, je voudrais qu'on prenne.
Ressenti partout en Europe.
Je voudrais qu'on prenne une dernière question et qui va dans ce sens-là, en fait. Le rapport de l'Europe à la Grande-Bretagne et inversement. Et c'est intéressant, malgré tout ce qu'on entend, la lecture qu'en fait David Young. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Écoutez, merci pour l'émission. Je commencerai par saluer Alex Taylor. Et je vais continuer.
Peut-être qu'il nous écoute, allez savoir.
En disant quelque chose, parce que votre invité là, Monsieur Young, donne l'impression que Emmanuel Macron ou bien Barnier sont des gens qui sont anti-britanniques. C'est totalement faux. Ils sont dans leur rôle de responsable européen. La première chose. La deuxième chose. Je pourrais quand même lui dire quelque chose à ce monsieur. Depuis Margaret Thatcher, John Major et tout ça, en passant par, bien sûr, le David Cameron qui a été le dernier, tous ces responsables politiques britanniques ont voulu faire porter à l'Europe la responsabilité de problèmes qu'ils avaient à l'intérieur de leur pays. À chaque fois, ils ont toujours été... Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, vous me réalisez, je vais aller presser sur l'Europe pour qu'ils fassent ceci ou cela. Mais ce n'est pas l'Europe qui a empêché la Grande-Bretagne de former des infirmières au point que pendant un certain temps, ils ont été obligés de faire venir des Polonaises, des gens de partout en Europe pour faire des infirmières en Grande-Bretagne. Mais ça, M. Young ne le dira pas. Et là je voudrais quand même lui poser une question.
Allez-y, est-ce vite, s'il vous plaît, Jacques.
Vraiment, est-ce qu'il n'a pas vraiment l'impression que eux, là, ils ont quand même commis une grosse erreur en trompant leur peuple par leur posture différente? Je voudrais vraiment qu'il réponde là-dessus.
Il va répondre, Jacques, si vous me laissez lui donner la parole, il va répondre et ce sera avec plaisir. David Young, on vous écoute, allez-y, il faut répondre à Jacques.
Alors la question, si on n'a pas fait une erreur en faisant quoi?
Je pense qu'il parle de l'ensemble de vos relations avec la communauté européenne, de ce que je comprends de la question de Jacques, entre autres. Est-ce que vous m'entendez toujours?
J'ai pas compris exactement la question.
Jacques.
Monsieur Young.
Très vite, Jacques, je vous en supplie.
Oui.
Oui. La question, c'est celle-ci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, d'avoir trompé votre peuple? Parce qu'aujourd'hui, les Anglais sont en majorité pour ne pas sortir de l'Union européenne. Et vous leur avez vendu.
Ah, d'accord. C'est d'accord.
Ça y est. De l'Union, ils allaient être bons.
Ça y est. Pardon. Excusez-moi, Jacques. J'ai compris. La question, David, en gros, David Young, c'est, est-ce que, vous savez aujourd'hui, enfin, de ce que dit Jacques, que la majorité des Français, des Anglais ne voulaient pas sortir de l'Union, ne veut plus, on vous a vendu le Brexit sur des mensonges, en gros. C'est ça l'idée de Jacques. Qu'est-ce que vous dites de ça, David Young?
Non, je pense pas que le Brexit a été vendu sur les mensonges. Je pense qu'on a eu beaucoup de tromperies sur les deux côtés. Je pense que même un fondateur de l'Union européenne, Jacques Monnet, il a écrit qu'il ne fallait pas avertir aux gens qu'une suppression de la démocratie allait être nécessaire pour fonder l'Union européenne. Donc il y a de la tromperie sur les deux côtés. Je pense qu'il y a...
Ce sera la phrase de conclusion, David, si vous voulez bien.
Bon, d'accord.
Non, mais je
pense qu'il y a des soucis sur la construction de l'Union européenne qui sont partagés partout dans l'Europe. Et ce n'est pas un problème uniquement anglo-anglais.
Pauline Schnapper, que fait la reine? Nous demande-t-on sur France
Inter. Que fait la reine? La reine ne fait rien du tout.
Elle ne fait rien,
elle ne tweete pas, Dieu merci. Elle nous épargne ça, elle ne dit rien, elle ne pense rien, c'est
alors,
son
est-ce
rôle.
Qu'elle a, est-ce qu'elle a émis un quelque chose?
Non, rien du
chose.
Tout, elle n'en a pas le droit constitutionnel. Donc c'est une statue, elle ne dit rien, elle ne pense rien.
Allez, tiens, cette dernière phrase sur franceinter.fr, et si on faisait un référendum pour demander aux Européens s'ils veulent garder la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Union Européenne?
Je faut tweak.
On n'en est pas là, chaque chose en son temps, merci beaucoup, partez-vous bien.